patrimoine.
Les récollets, comment créer un couvent ? Un chef de projet déterminé et inspiré, des protecteurs puissants, des moyens, un créneau favorable. L'installation d'un couvent à Toulouse à la fin du XVe siècle, cela ne s'improvisait pas.
Il faut crier, frapper du pied, trépigner. Olivier Maillard, l'un des plus célèbres prédicateurs franciscains de la fin du XVe siècle, avait pour habitude d'animer ses prêches par toutes sortes de mimiques de nature à frapper l'attention des foules qui se précipitaient en masse pour l'entendre aux quatre coins du royaume et au-delà. Une habitude qui a dû lui servir pour réussir à implanter un nouveau couvent de son ordre à Toulouse grâce à la force de sa conviction, mais aussi des protecteurs puissants, des moyens conséquents et une bonne intelligence stratégique pour dérouler son plan au bon moment afin de neutraliser les oppositions. Les protecteurs puissants d'abord. Louis XI était vieux, quelque peu inquiet de son accès au paradis et, entre deux attaques d'apoplexie, il se laissa convaincre par le fougueux prédicateur de signer le 2 juillet 1481 des lettres patentes où il dit vouloir fonder un couvent des frères mineurs de l'observance, la branche réformatrice et austère de l'ordre franciscain dont faisait partie Maillard. Or et près de notre ville et cité de Toulouse, en une maison ou borde située sur le chemin qui va de la dite ville de Toulouse à la chapelle de Notre-Dame du Ferretra. Après la plus haute autorité civile, la plus haute autorité ecclésiastique. Le pape Sixte IV est non seulement franciscain, mais a tout intérêt à ce moment-là à faire plaisir au roi de France pour de basses raisons de politique italienne. D'où une bulle papale dès le 13 octobre suivant et une lettre le 29 à l'archevêque de Toulouse pour qu'il obtempère s'il ne veut pas être excommunié. Les moyens, ensuite. Maillard avait visé la Borda del Medge, ferme du médecin en Occitan, tout près de la chapelle du Ferretra, au bout du faubourg Saint-Michel. Le médecin, c'est Folc Andrieux, qui possède là une belle ferme avec étage où il y a salle basse, chambre et grange, cuve et fouloir et four, jardin dans le clos avec treille, noyer et autres arbres fruitiers. Et accepte de s'en défaire dès le 3 janvier suivant pour 200 écus payés par le roi. Mais il faut maintenant construire et cela demande des moyens bien supérieurs, dont témoigne la qualité de ce qui nous reste, sculptures, architectures, charpentes, qui sont fournies par de riches Toulousains, apparemment sous la forte influence de Maillard, ce prédicateur qui, lors de ses séjours en ville, était si convaincant que les femmes de Toulouse n'usèrent plus d'habillements si voluptueux comme avant. L'intelligence stratégique est évidente, puisque Maillard a profité de la vieillesse du roi, de la bienveillance intéressée du pape, de la faiblesse des franciscains locaux, les cordeliers, qui ne se priveront pas de critiquer le projet, mais devront se plier quelques années plus tard aux nouvelles règles promues par Maillard, de la richesse montante des Toulousains qui entament tout juste le glorieux siècle du pastel. Résultat, 5 ans plus tard, le couvent semble déjà habitable, puisque s'y réunit un synode de l'ordre avec Maillard, qui reviendra plusieurs fois à Sainte-Marie-des-Anges, nom donné en souvenir d'une petite chapelle qu'appréciait François d'Assise, la dernière pour y mourir le 13 juin 1502 et s'y faire enterrer.
Et sur cette page, on voit un dessin du couvent. Aux avant-postes de Toulouse, au sud, le nouveau couvent franciscain de l'Observance, déricolé à partir du XVIIe siècle, servit très vite de halte d'accueil pour les entrées des puissants en ville, comme le couvent des Minimes au nord. C'est là que se formait le cortège avant d'aller rejoindre les Capitouls à la porte Saint-Michel, comme ici, avec le jeune prince français de Bourbon, duc d'Enghien, en 1545, de retour des guerres d'Italie. On voit également le nouveau couvent vers la même époque et ses environs, côté ouest de la grande rue du Faubourg Saint-Michel, qui mène à l'église et à la porte du bientôt détruit Château Narbonnais. Non loin du port Garot, le couvent est constitué par l'église Sainte-Marie des Anges, dont le clocher sera détruit en 1794, et la maison des frères rasée, elle, en 1793, avec leur cloître. À lire Pierre Salis, Sainte-Marie des Anges, Église des Récollets, dite Église du Calvaire et le Faubourg Saint-Michel du XVe siècle à nos jours, édition de Lota, 1956, réalisation Studio Différemment, texte Jean de Saint-Blanca, illustration Marine Delouvrier, Pierre-Alexandre Soula, merci à la direction du patrimoine.